Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. En ce moment se déroule le 13e congrès de l'encéphale au Palais des Congrès à Paris. L'occasion pour nous de parler des troubles bipolaires, une maladie dans laquelle les patients alternent les phases de dépression avec des troubles du sommeil et des phases d'euphorie avec un optimisme démesuré, un sentiment de toute puissance, une mégalomanie. Cette maladie, encore assez méconnue, constitue pourtant, selon l'OMS, la 6e cause de handicap dans le monde. Elle est sous-diagnostiquée. Les patients errent plusieurs années avant qu'un diagnostic ne soit posé. Ensuite, la prise en charge est aussi souvent inadaptée. Pourtant, il existe des traitements efficaces. Alors, comment diagnostiquer ces troubles bipolaires? Quelles en sont les causes? Et comment prendre en charge à la fois les phases dépressives et les phases maniaques? C'est ce qu'on va voir avec mes invités. Ils sont deux autour de cette table. Le professeur Franck Bellivier, responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologique du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière-Fernand Vidal à Paris. Il dirige également le centre expert bipolaire de la Fondation Fondamentale à Paris. Également avec nous, de passage à Paris, le professeur Haruna Ouédraogo, chef du service de psychiatrie au CHU Yelgado Ouédraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. Et si vous avez envie de leur poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Et dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Jean-Pierre Ollier, qui est président du congrès, justement, de l'encéphale, ancien chef de service de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne. Et en fin d'émission, comme tous les jeudis, on retrouve la chronique du docteur Catherine Solano. Professeur Franck Bellivier et professeur Haruna Ouédraogo, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être là. Professeur Franck Bellivier, tout d'abord, comment définir ces troubles bipolaires? J'ai commencé à les définir, mais j'imagine que vous avez des choses à rajouter. Ça vous allez d'abord ma définition?
Oui, c'était très bien. On peut rajouter que ce sont des phases de plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, qui contrastent avec le fonctionnement intercritique des patients et qui sont soit de polarité dépressive, avec un handicap très marqué, vous l'avez dit, ralentissement psychomoteur, des idées suicidaires, en général ça associe des angoisses importantes, donc ce sont des états qui sont extrêmement handicapants.
De grosses dépressions.
Voilà, de dépressions très marquées, et les autres phases sont effectivement des phases d'excitation, de perte de contrôle, avec une élation de l'humeur et souvent des troubles des conduites qui peuvent s'associer quand l'état est grave. Une des difficultés, vous en avez parlé, c'est au sujet des difficultés diagnostiques, c'est que les phases dépressives des patients bipolaires sont très difficiles à distinguer des phases dépressives des patients non bipolaires. Or, le traitement des dépressions des patients bipolaires et des patients non bipolaires n'est pas le même.
C'est ça, on va le voir tout au long de cette émission. Beaucoup de gens bipolaires ont été traités simplement pour leur dépression.
Exactement.
On va y revenir. On a au téléphone le professeur Jean-Pierre Ollier, qui est président de ce 13e congrès de l'encéphale qui démarre aujourd'hui au Palais des Congrès à Paris. Professeur Jean-Pierre Ollier, bonjour.
Bonjour Claire Hédon.
Quelles sont les particularités de ce congrès de l'encéphale? Vous allez bien sûr entre autres parler des troubles bipolaires, c'est pour ça que nous on en parle aujourd'hui, mais pas que.
Oui, mais écoutez, le congrès de l'encéphale est la grande réunion chaque année de la psychiatrie francophone. Comme l'an dernier, il y a 4000 professionnels inscrits qui participent à ce congrès. Et effectivement, la thématique de la maladie bipolaire est une thématique qui va être déclinée de plusieurs manières. Alors, je salue également mes collègues qui sont sur votre plateau. Et par rapport à ce que vient de dire Franck, je me permettrai quand même de préciser que c'est une maladie qui réduit considérablement l'espérance de vie des personnes qui en sont atteintes si la maladie n'est pas diagnostiquée et n'est pas traitée. Alors, lors du congrès, nous allons, les deux axes importants. C'est d'abord, nous allons parler de la question de l'enfant et de l'adolescent. Est-ce qu'il y a opportunité à porter ce diagnostic et quelles en sont éventuellement les conséquences? La réponse est bien sûr oui. La maladie bipolaire débute le plus souvent entre 16 ans et 30 ans, mais elle peut débuter plus tôt et se manifester, être difficile à repérer et avoir des conséquences importantes pour l'enfant. Et puis, un des deuxièmes deuxième axe dans le congrès, ce sera la question des formes de la maladie qui sont plus difficiles encore à traiter, que nous appelons, nous médecins, les formes résistantes. Et ceci sera notamment abordé par le professeur Fossati de la Salpêtrière et par le professeur Gaillard de l'hôpital Sainte-Anne à Paris, tous les deux. Et donc, ce sont deux des thèmes, donc les formes particulièrement précoces de la maladie et d'autre part les formes particulièrement difficiles à traiter que nous appelons les formes résistantes. Il faut savoir que nous sommes tous cyclothymiques, hein, nous avons tous des variations, nous avons tous des jours avec et des jours sans, je dirais. Mais ceci donc... il y a des variations de ce rhéostat qui sont beaucoup plus importantes et qui font donc que des personnes ont, comme l'a dit le professeur Bédivier, ont des phases de dépression très pathologique, très grave, qui expriment une profonde douleur, et puis à d'autres périodes de leur vie, des périodes contraires d'exaltation euphorique avec les risques que cela peut comporter.
Juste une dernière question, professeur Ollier. On va revenir plus longuement dans cette émission justement sur les traitements et le diagnostic. Quelles sont les autres thématiques que vous allez aborder dans les maladies psychiatriques ?
Alors, dans les maladies psychiatriques, nous allons aborder beaucoup, tout d'abord, la question des nouvelles demandes de la société à la psychiatrie. En particulier, ces nouvelles demandes en fonction du contexte économique social. On sait, il est de plus en plus démontré, que plus une société a un PIB élevé, c'est-à-dire que plus un pays est riche, mieux les traitements sont dispensés. Mais ce que l'on sait de plus en plus, c'est que moins une société est riche, plus le PIB est bas. Donc, à ce moment-là, plus la morbidité psychiatrique est élevée, c'est-à-dire qu'il y a davantage de souffrances psychiques et moins de réponses médicales. Et ceci est abordé tout au long du congrès. Et donc, comme je vous l'ai dit, le deuxième thème, ce sont les difficultés aussi actuelles de nos réponses thérapeutiques dans les pathologies dépressives, dans les pathologies schizophréniques. Et c'est le fil d'Ariane, le fil conducteur de ce congrès, les demandes, les nouvelles demandes à la psychiatrie et aussi les domaines où la psychiatrie a le plus grand besoin de progresser en matière thérapeutique.
Merci beaucoup, professeur Jean-Pierre Ollier. Je rappelle que vous êtes président de ce congrès de l'encéphale. Merci d'être intervenu et bon congrès. Je voudrais juste vous faire réagir derrière professeur Haruna Ouedraogo. Un point très intéressant abordé par le professeur Ollier. On a longtemps dit que dans les pays en développement, ben justement, il y avait moins de dépression, moins de maladies psychiatriques. Et c'est entièrement faux.
Oui, merci. En fait, je pense que chaque société aussi va produire ses problèmes, hein, y compris ses problèmes de santé mentale. Et plus on est pauvre, plus on a aussi d'autres sujets en fait de préoccupation. Donc, chez nous, nous avons en fait cet aspect que le fait de manquer de ressources pour pouvoir se soigner constitue aussi un problème.
Et puis, la maladie mentale est vraiment encore plus le parent pauvre dans les pays en développement.
Tout à fait. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont scolarisées. Donc, la nécessité, l'observance thérapeutique est tout à fait médiocre, parfois, en fait, notamment chez ceux qui n'ont pas été à l'école. Et parfois aussi, il y a une influence assez négative, un peu aussi, de certaines pratiques qui ne permettent pas, voyez, un traitement efficace, n'est-ce pas?
Vous voulez dire quoi? Soyez assez direct, recours aux tradis praticiens,
oui,
c'est
bien
ça?
Bien sûr.
Patient qui vous arrive un peu tardivement.
Oui, tout à fait.
C'est ça. On va revenir tout au long de cette émission sur, plus précisément, les troubles bipolaires. Et aujourd'hui, donc, on parle des troubles bipolaires avec le professeur Franck Bélivier et le professeur Haruna Ouedraogo. Igor Strauss est allé rencontrer Marianne Colombani, qui accepte d'ailleurs de donner son nom. Elle a 52 ans, deux enfants. Elle est cyclothymique depuis l'âge de 30 ans, mais en fait, ses troubles bipolaires n'ont été diagnostiqués qu'il y a 4 ans. Sa grand-mère, d'ailleurs, était dépressive et sous lithium. On l'écoute.
J'étais ce qu'on appelle cyclothymique depuis l'âge de 30 ans. J'avais des petites montées, des petites descentes. ce qui m'avait amené à commencer une psychanalyse. Donc je gérais par la psychanalyse ses montées et ses descentes. Puis petit à petit, ses montées et ses descentes s'aggravent. Et à un moment, les descentes ont été tellement graves que j'en suis arrivée à faire un an de mélancolie profonde. C'est vraiment tétanisé au lit avec des idées suicidaires permanentes et une incapacité totale à faire quoi que ce soit. Et donc à ce moment-là, ils ont clairement posé le diagnostic de bipolarité et je m'en suis sortie par des électrochocs.
Et donc électrochoc suite à cette année de mélancolie. Et ensuite, comment ça se passe ?
Premier électrochoc, je sors de la mélancolie. Le premier après-midi, je recommençais à parler, je recommençais à sourire, ce qui ne m'était pas arrivé depuis un an. Bon, 4 semaines d'hospitalisation, 3 électrochocs par semaine, c'est quand même violent. C'est comme si on vous avait effacé complètement le disque dur. Même à la sortie des 4 semaines, je suis rentrée chez moi, je ne savais plus où étaient les interrupteurs, je ne savais plus conduire dans Paris, mais ça m'a sorti de la mélancolie. Derrière, il y a un traitement qui a été mis en place, un traitement avec du lithium, avec malheureusement les effets secondaires, à savoir une prise de poids terrible, j'ai pris 10 kilos, un risque d'insuffisance rénale au long terme. J'ai surtout fait un cycle de psychoéducation avec le docteur Christian Gay à la clinique du Château, qui a été vraiment le début de la reconstruction pour moi. Ça m'a aidé à devenir une experte de ma maladie, à être capable de gérer maintenant mes montées et mes descentes avec vigilance. C'est-à-dire que dès que je monte, j'appelle mon psychiatre et on rééquilibre le traitement. Dès que je descends, je l'appelle aussi. Donc voilà, ça, j'ai une vigilance accrue. Et là, depuis 3 ans maintenant, je suis équilibrée. Je n'ai plus de descente grave ni de montée excessive.
Mais vous parliez de gérer, d'être en vigilance accrue. Quels sont les symptômes qui doivent vous alerter ?
C'est très simple. Quand vous commencez à ne pas dormir, c'est le signe de la montée maniaque. En phase maniaque, votre cerveau tourne à 200 km/h. Et vous n'arrivez pas à vous arrêter de penser. Et ça vous empêche de dormir. Et les signes de la dépression, c'est très simple. Impossibilité de se lever le matin. Non-désir absolu, manque de ressenti, plus d'affect, même plus de sentiments maternels.
Alors justement, quelle a été la réaction de votre entourage, de vos enfants, de vos deux enfants, et de votre mari de l'époque ?
Mon mari, il en a pâti, puisque finalement je le quittais quand j'étais en phase maniaque, et je me remettais avec lui quand j'étais en phase dépressive, et puis à un moment, ça a été intenable pour lui. Donc il a subi vraiment cette maladie, et notre couple a explosé à cause de cette maladie. Les enfants, aujourd'hui, de toute façon, ce dont ils souffrent, et ce dont souffre globalement l'entourage, c'est davantage de la phase maniaque que de la phase dépressive. Parce qu'en phase dépressive, on est au fond du trou, mais on est quand même accessible. C'est-à-dire qu'on peut nous parler. En phase maniaque, on n'écoute personne. Globalement, l'entourage, autant en phase dépressive qu'en phase maniaque, est totalement impuissant face à la maladie.
Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans la bipolarité ?
Je vais vous dire à 100% la dépression. Parce que la montée maniaque, elle est tellement géniale et elle est tellement créative. Vous n'entendez pas la musique pareille, vous ne voyez pas les couleurs pareilles, vous êtes en hypersensibilité sur le monde. Enfin, je veux dire, c'est absolument génial. Sexuellement, c'est l'éclat total. Toutes les sensations sont décuplées. Donc c'est très difficile de se couper de ce plaisir incroyable de la montée maniaque. Par contre, la dépression, c'est absolument horrible. C'est le vide absolu. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes même pas déprimé, vous n'êtes même pas malheureux, vous n'êtes rien. C'est le vide.
Priorité santé sur RFI.
professeur Franck Bélivier. J'aimerais bien votre réaction à ce témoignage de Marianne Colombani, un témoignage assez extraordinaire, je trouve qu'elle explique vraiment bien. Ce que je trouve intéressant comme première action, c'est l'entourage qui finalement, entre guillemets, préfère la dépression parce que c'est plus gérable que la phase maniaque, et elle qui au contraire dit mais finalement la phase où on est euphorique est celle la plus agréable pour le patient.
Oui, oui, c'est un témoignage réitéré par beaucoup de patients, les transports de la manie, et il faut tout un cheminement pour que le patient comprenne et s'approprie qu'il a affaire à une problématique cyclique, c'est-à-dire que la manie c'est très agréablement ressenti, mais en réalité c'est le miroir, c'est le prix à payer de l'autre polarité. Donc le prix à payer de la manie,
la dépression après.
Exactement. Donc le témoignage de Marianne Colombani est assez exemplaire du cheminement suivi, de la maturation, de l'importance de la compréhension. Comprendre, c'est pouvoir agir beaucoup plus efficacement. Et l'éducation, tout ce que l'on peut faire pour informer et donner des informations utiles sur la pathologie est utile aux patients. Et on passe maintenant beaucoup de temps dans ces actions pédagogiques à destination du patient, mais aussi de son entourage. Et on a parlé de l'incompréhension, de la perplexité de l'entourage par rapport à ces modifications très profondes de la personnalité d'une personne qui sont très difficiles à appréhender, à comprendre. Et donc ça, c'est très utile aussi pour l'accompagnement des patients, que l'entourage puisse mieux comprendre ces affaires.
Professeur Ouedraogo, est-ce que ce témoignage correspond de Marianne Colombani à ce que vous pouvez entendre de vos patients?
Oui, tout à fait. C'est un témoignage qui est... très parfait, qui résume en fait ce qu'on voit partout en matière de troubles bipolaires. Alors je voulais faire observer peut-être un petit détail, c'est que dans le cadre en fait des phases maniaques caractérisées, la gestion est relativement facile parce que l'entourage en fait comprend qu'il y a là un problème pathologique.
Et du coup, pousse à la consulter, vous emmène les patients.
Bon. Voilà, tout à fait. Alors, mais nous avons souvent des difficultés quand il s'agit de phases hypomaniaques.
Donc dépressives.
Pas tout à fait dépressives. En fait, ce sont des phases qui sont, en fait, intermédiaires entre l'état normal et, en fait, l'état maniaque. Donc, c'est une phase un peu atténuée de manie. Où le sujet peut rester tout à fait sociable. Et souvent, ce n'est pas toujours perçu comme pathologique par l'entourage. Et ces variations, qui sont en fait déjà pathologiques pour le clinicien, ne sont pas diagnostiquées comme telles par l'entourage.
Or, c'est à ce moment-là qu'il faudrait les consulter, avant que ça s'aggrave.
Donc, ils ne viennent pas toujours à ces périodes-là.
Et quand on a préparé cette émission, vous me disiez que dans la phase dépressive, finalement, l'entourage est moins gêné, donc incite moins à ce que le patient aille consulter un psychiatre.
Oui, bien sûr, parce que ce sont des patients qui ne dérangent personne. Et comme le témoin, en fait, la dame, vous voyez, ils ne sont rien. Donc, n'étant rien, souvent, ça ne pose pas du tout de problème à l'environnement. Et donc, souvent, on préfère donc les garder là. Si l'initiative ne vient pas, en fait, d'un proche de la famille, c'est difficile parfois, effectivement, qu'ils viennent en consultation.
Le problème, effectivement, professeur Franck Bélivier, c'est que dans la phase maniaque, les patients peuvent vraiment faire n'importe quoi. On dit aussi des pensées, enfin, vraiment des choses qui sont à risque aussi pour le reste de l'entourage. Tout à l'heure, le professeur Aulier a dit qu'il y avait une espérance de vie moindre chez les patients atteints de troubles bipolaires. Pourquoi? C'est-à-dire, le risque principal, c'est le suicide, mais pas que.
Il y a donc évidemment le trouble bipolaire est une des pathologies mentales les plus suicidogènes. C'est pas la plus suicidogène. La pathologie mentale la plus suicidogène, c'est l'anorexie mentale, mais c'est une pathologie beaucoup plus rare. Donc le tribut payé par les patients bipolaires en termes de nombre de décès par suicide est beaucoup plus important. Donc pas seulement, la santé physique des malades bipolaires est aussi moins bonne, ils font beaucoup plus d'infarctus du myocarde, beaucoup plus tôt, en tout cas ils font en moyenne leur infarctus, un premier infarctus du myocarde en moyenne 9 ans plus tôt.
On y revient si vous voulez bien dans 3 minutes, juste après les informations justement sur cette baisse de l'espérance de vie.
Priorité santé. Claire Hédon.
à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, on parle des troubles bipolaires à l'occasion du 13e congrès de l'encéphale qui se déroule en ce moment à Paris. Pour en parler, deux invités, le professeur Franck Bellivier, qui est responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologie du groupe hospitalier Saint-Louis-Lariboisière, Fernand Vidal à Paris, et le professeur Aruna Ouedraogo, qui est chef du service de psychiatrie au CHU Yelgado Ouedraogo de Ouagadougou au Burkina Faso. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Professeur Franck Bellivier, juste avant les informations, vous étiez en train de nous expliquer les raisons de la baisse d'espérance de vie des patients atteints de troubles bipolaires. Vous avez évoqué la question du suicide, mais pas que. Vous avez commencé à parler des maladies cardiovasculaires.
Donc, il y a les patients bipolaires ont une mauvaise santé physique. C'est même parmi les pathologies psychiatriques la pathologie qui est le plus souvent associée à des morbidités somatiques, obésité, dyslipidémie, troubles du cholestérol et des triglycérides, diabète. Avec les conséquences de ce syndrome métabolique sur le risque de pathologie cardiovasculaire et le risque de pathologie cérébrovasculaire. Donc tout ça grève...
Et ça, c'est dû au traitement ou
pas,
est-ce
du
que...
tout.
Pas du tout.
On a maintenant des données très claires qui indiquent qu'il y a une vulnérabilité, une fragilité partagée entre la vulnérabilité aux troubles bipolaires et la vulnérabilité à ces maladies métaboliques avec leurs conséquences cardiovasculaires et cérébrovasculaires. Pour des raisons qu'on n'a pas tout à fait élucidées, mais elles paraissent en grande partie constitutionnelles. Évidemment, certains traitements sont parfois mal tolérés et peuvent révéler ou aggraver cette fragilité. Donc le maniement des traitements doit être particulièrement attentif du point de vue des effets secondaires. Madame Colombani a signalé cette prise de poids qui n'est pas inexorable. On doit être très attentif à ces questions pour adapter le traitement et trouver des options, puisque nous sommes sur des traitements au long cours, nous sommes obligés de proposer à nos patients des options qui seront bien tolérées sur le plan métabolique, sur le poids, sur les cognitions, etc.
À cela s'ajoute un handicap, je dirais, dans la vie quotidienne, une difficulté d'insertion dans la vie, de trouver du travail, de poursuivre ses études.
Alors, on en a parlé tout à l'heure. La principale raison pour laquelle le trouble bipolaire est une pathologie avec un tel handicap, c'est que c'est une pathologie du sujet jeune. Et les premiers épisodes, qu'ils soient maniaques ou dépressifs, vont très rapidement avoir un impact majeur sur le développement académique, professionnel, social, affectif. Les sujets sont touchés à la fin de l'adolescence, au début de l'âge adulte, à une phase très critique de leur développement. Et donc la précocité diagnostique est un enjeu très important en termes de pronostic, justement, pour essayer de le plus rapidement possible enrayer ces cycles qui ont un impact sur le développement.
On a Martine qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Martine, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Martine.
Mon appel, ça concerne le lien avec l'alcoolisme. Je me demande si un alcoolique qui est alcoolique depuis des années peut être sujet ou bien vous avez dit ça, bipolisme?
Oui, bipolarité, des troubles bipolaires.
Bipolarité.
Oui.
Peut avoir des troubles bipolaires. Parce que j'ai un parent, comme je vous le disais, et qui vit à Paris et qui a de sérieux problèmes. Parfois, on croit qu'il est complètement fou. Franchement fou. Et d'autres fois, il est normal, comme tout le monde, on lui fait confiance, il fait tout, et tout d'un coup, paf, il rechute. Même s'il ne prend pas d'alcool, on a peur, on se dit qu'il est bien fou.
Alors, professeur Franck Bellivier, est-ce qu'il y a un lien, effectivement, entre l'alcool et les troubles bipolaires?
Alors, le témoignage est intéressant parce que l'alcool peut être une porte d'entrée, c'est-à-dire une manière de entrer en contact avec un patient qui s'avérera être porteur d'un trouble bipolaire. Et cela pour une raison, nous avons parlé de l'errance diagnostique, c'est-à-dire du retard diagnostique, et qui est aussi lié à ces masques trompeurs que l'on peut avoir et qui ne facilitent pas le diagnostic. L'alcool, enfin les addictions en général, peuvent être un de ces masques trompeurs. La deuxième raison, c'est que le trouble bipolaire s'associe très fréquemment à l'alcool. On a, sur la vie entière, 50% de patients, au moins 50% de patients qui ont, au cours de leur vie, un problème d'abus ou de dépendance à une substance. Donc c'est une pathologie.
Pourquoi en fait pour calmer les effets de la maladie, c'est souvent ils ont recours.
Alors il y a différentes théories. L'idée que les produits addictogènes sont pris à visée d'automédication ne semble pas se confirmer. Il y a une perte de contrôle des consommations dans les phases maniaques qui est assez compréhensible. Il peut y avoir une recherche d'effets anxiolytiques dans les phases dépressives, mais en réalité, là encore, il s'agit probablement d'une vulnérabilité partagée. Pour l'alcool et le tabac, par exemple, c'est des produits qui sont facilement disponibles. Si les patients rentrent dans des consommations compliquées, c'est probablement parce qu'ils ont une fragilité de ce côté-là.
Merci beaucoup à Martine pour cette question. Et effectivement, il peut y avoir un lien, ça vaut le coup d'aller consulter. Il faut consulter, j'imagine, dans ces cas-là, des spécialistes de la question.
Mais en tout cas, des équipes qui ont les deux compétences, la compétence addictologique et la compétence.
Et c'est bien pour ça, c'est le cas de la vôtre. Non, c'est bien. Parce que depuis le début, je dis bien que vous êtes responsable du service de psychiatrie et du service de médecine addictologie. C'est pas pour rien que les deux vont ensemble.
Pense que c'est assez malin d'avoir une offre sur ces deux aspects, puisqu'elles sont fréquentes.
On a Jérémy qui nous appelle de Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Jérémy, bonjour.
Clairement, bonjour le professeur.
Alors, on vous écoute, mais la ligne téléphonique n'est pas très bonne, donc parlez bien fort.
Je voudrais m'adresser au professeur, comme il est le président du Congrès, je pense qu'il est outillé quant aux différentes recherches. Alors, je voudrais lui demander, est-ce que jusqu'à présent, ils ont déjà pensé sur les causes du temps magico-religieux. Parce que souvent, sinon en Afrique, vu les infrastructures, les conjonctures, ces pathologies, souvent, ne trouvent pas une solution escomptée. Et il y a trop de récidives. Alors je voudrais, est-ce que le professeur peut nous parler où ils sont avec
cette réflexion-là. C'est très intéressant votre question, Jérémy. En l'occurrence, le professeur Ollier, qui est président du Congrès, est au Congrès, donc il n'est pas avec nous, on l'a eu juste au téléphone, mais je pense que vous avez plein de choses à dire là-dessus, professeur Ouédraogo. Effectivement, d'abord, est-ce que la manifestation du trouble bipolaire est un peu différente en Afrique? Et surtout, j'imagine que vous arrivez un peu en dernier recours, quand on est allé voir les religieux, les marabouts, avant d'arriver chez vous.
Oui, tout à fait. En fait, d'un point de vue clinique, on ne peut pas dire qu'il y a une manifestation différente. Il y a que, très fréquemment, que ce soit en phase dépressive ou en phase maniaque, il y a des difficultés diagnostiques dues au fait qu'il peut exister dans ces deux situations-là, des délires ou parfois aussi des phénomènes hallucinatoires qui font poser à tort peut-être le diagnostic d'autres états psychotiques plutôt que le trouble bipolaire. Et c'est justement dans le cadre de ces manifestations-là qu'on peut avoir des délires mystiques. Je pense que notre ami qui appelle de Lubumbashi peut-être fait allusion à cela. C'est une manifestation.
Et c'est une manifestation fréquente, justement, ces délires mystiques.
Oui. La thématique, oui, effectivement, elle peut exister. Et cela ne veut pas dire qu'il faille obligatoirement, en fait, y voir des causes qui est très, en fait, à la culture. Non. Je pense que c'est une forme, en fait, de manifestation, en fait, d'un état clinique, d'un état pathologique, tout simplement.
Et ces délires mystiques, professeur Franck Bélivier, vous les voyez aussi en France?
Oui, on peut évoquer une connotation culturelle à l'expression des symptômes délirants. Mais globalement, on a une très grande fréquence des symptômes délirants qui s'associent aux décompensations dépressives et maniaques dans le trouble bipolaire en France. Il peut y avoir une coloration religieuse en fonction de l'affiliation religieuse ou de la culture du sujet. Il peut y avoir une coloration, mais c'est
le traitement ne change pas pour autant. Justement, merci Jérémy pour votre question. On va en venir au traitement, professeur Bélivier. On l'a entendu, il y a des électrochocs, le lithium, expliquez-nous quels sont les traitements.
Alors, je terminerai par les électrochocs. Au sujet du traitement, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous avons affaire à une pathologie extrêmement complexe. Je l'ai dit, du fait des comorbidités addictives très fréquentes, des comorbidités anxieuses, des comorbidités somatiques. Et donc, le programme thérapeutique va dépendre de d'une évaluation au cas par cas de la situation de chaque patient et en fonction des registres de symptômes prévalents, du type de cyclicité, du type de comorbidité, nous allons élaborer un programme thérapeutique qui va tenter de répondre à ces différentes facettes de la pathologie. Donc on ne peut pas envisager le traitement du trouble bipolaire de la même manière chez deux personnes différentes. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect concernant le traitement, c'est que nous observons une très grande variabilité de la réponse au traitement pour un produit donné, pour un patient donné ou pour un épisode donné. On observe des grandes fréquences de non-réponse, 30, 40, parfois 50%, réponse ou variabilité de réponse que nous sommes complètement incapables de prédire. Donc ça, c'est une deuxième incitation forte à envisager le traitement au cas par cas. Le troisième aspect, c'est que le traitement du trouble bipolaire, Madame Colombani l'a bien indiqué, ce n'est pas que des médicaments. Les médicaments sont indispensables, les traitements régulateurs de l'humeur qui visent à stabiliser l'humeur sont absolument indispensables, mais nous avons à notre disposition un arsenal thérapeutique très complet que nous devons déployer au cas par cas, avec aussi beaucoup de stratégies non médicamenteuses qui se développent pour justement répondre à ces différentes facettes de.
Et ces stratégies non médicamenteuses, c'est quoi ?
Alors, ça peut être des. Elle y a fait allusion. Les groupes de psychoéducation sont aujourd'hui ont une efficacité bien démontrée dans les troubles bipolaires. Donc, ce sont des approches qui peuvent être très éducatives, plus psychothérapiques, faisant appel à des techniques de psychothérapie spécifiques. On se développe beaucoup sur ces objectifs ciblés différents modules de thérapie comportementale et cognitive. Des psychothérapies se développent également dans le champ de la méditation en pleine conscience, qui aide beaucoup les patients. Les thérapies plus classiques d'inspiration analytique peuvent aider également certains patients, mais en tout cas, ce programme thérapeutique doit être élaboré vraiment au cas par cas. J'ai oublié de dire que nous incluons dans ces mesures thérapeutiques tout ce qui vise à améliorer la santé physique, qui
bien
est
sûr.
Un enjeu, encore une fois, très important.
Un mot quand même sur les électrochocs qui ont été longtemps décriés, ils ont encore un intérêt.
Ah oui, c'est aujourd'hui pour nous, c'est un traitement de référence à la fois pour le traitement des épisodes. Alors, on peut le réserver aux épisodes résistants, mais oui, il faut considérer que les électrochocs sont aujourd'hui le traitement le plus efficace et le mieux toléré. À un niveau populationnel, nous avons une meilleure tolérance des électrochocs que des psychotropes envisagés globalement.
Dans tous ces traitements, professeur Ouédraogo, qu'est-ce qui est disponible au Burkina Faso avec le fait et la première difficulté, c'est que vous êtes déjà pas très nombreux comme psychiatre.
Oui, donc nous ne sommes pas nombreux, c'est sûr. En fait, nous utilisons comme mesure thérapeutique, n'est-ce pas, les thymorégulateurs, et accompagnés également d'une psychothérapie. Mais le préalable chez nous, c'est d'avoir une alliance thérapeutique avec l'entourage. Donc, il y a une place très importante de la psychoéducation, que ce soit avec les patients eux-mêmes ou que ce soit avec l'entourage. Pour reconnaître d'abord le trouble, ce que c'est, et surtout la nécessité d'avoir une observance thérapeutique. C'est un trouble au long cours, donc qui va nécessiter un traitement sur des années. Et pour faire comprendre cela aux familles, c'est pas simple.
Parce que les familles, finalement, quand le patient va mieux, on dit on a un traitement.
Ben oui, il existe des périodes libres qui, parfois, font que nous avons beaucoup de perdus de vue et qui se retrouvent, justement, sans traitement pendant plusieurs mois, parfois même plusieurs années, et qui reviennent à l'occasion, donc, de rechute. Donc, il faut recommencer.
Et ça, c'est parce que le traitement coûte cher aussi ou pas?
C'est à la fois oui le coût du traitement, mais c'est aussi l'allure en fait de la maladie. Vous voyez, il peut y avoir des intervalles libres, n'est-ce pas, entre deux épisodes. Donc le sujet va considérer que.
Mais juste un mot, Franck Bolivier, la même chose en France. Quand
absolument.
Les patients vont bien, ils arrêtent leur traitement.
Non, mais nous devons déployer beaucoup d'énergie pour expliquer que l'attitude intuitive qui est de dire je vais bien, j'arrête mon traitement est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que.
Je vais bien, je poursuis mon traitement.
Ce qui va être déterminant en termes de pronostic, c'est les stratégies préventives des récurrences. Et les stratégies préventives des récurrences, c'est traiter un épisode, c'est pas le sujet, les patients souffrent beaucoup pendant ces phases-là, mais en termes de pronostic, ce qui va considérablement désorganiser la vie, c'est le caractère répété de ces épisodes. Et donc les stratégies préventives sont supérieures.
Vite. Professeur Ouédraogo, et la question des électrochocs, vous avez
Donc, dans mon service, nous n'utilisons pas d'électrochocs parce que nous n'avons pas, en fait, l'équipement pour...
Voilà.
C'est la raison.
Mais ce serait intéressant pour vous, hein.
Oui, bien sûr. Ce sont des traitements qui ont fait leur preuve et qui sont indiqués dans bien des cas, c'est sûr.
On arrive à la fin de cette émission, professeur Bellivier. Il faut quand même qu'on dise un mot des effets secondaires. Dans son témoignage, Marianne Colombani l'a évoqué, les effets secondaires des traitements et les recherches pour essayer de trouver de meilleurs traitements.
Alors, cette variabilité de la réponse au traitement, dans mon esprit tout à l'heure, incluait la variabilité de la tolérance. Et en effet, on observe là encore une très grande variabilité dans la tolérance des traitements, avec des patients qui développent des effets secondaires rédhibitoires, qui sont inacceptables pour eux, et nous n'aurons pas d'autre choix que d'en tenir compte pour leur proposer d'autres options thérapeutiques.
Vous faites vraiment tout un travail de recherche, vous, avec la Fondation Fondamentale, vous dirigez une équipe de recherche en neuropsychopharmacologie. On avance quand même sur trouver de meilleurs traitements?
Écoutez, ce programme de recherche qui vise précisément à aborder ces facteurs qui sont associés à la variabilité de la réponse au traitement en sont au tout début, mais au niveau international, on a effectivement beaucoup de recherches qui se développent dans ce domaine. En France, on a un soutien très important du réseau national de centres experts sur le trouble bipolaire qui a été mis en place par la Fondation Fondamentale, et ça nous a permis, enfin ça nous permet de mettre en place des recherches importantes dans ce domaine, donc à suivre.
Et vous revenez chez nous le 27 mars, parce que le 30 mars, c'est une journée mondiale justement sur les troubles bipolaires. Un mot
C'est une manifestation importante qui va rassembler les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du trouble bipolaire, mais aussi les patients et leurs familles. Donc ça va être une rencontre intéressante avec déjà un programme très intéressant. Il y a notamment au programme un film récent qui vient de sortir de Rodolphe Viermont qui s'appelle Humeur liquide
et qui sera diffusé
à cette occasion-là
on en reparlera le 27 réussite. Mars et vous nous parlerez justement de toutes vos recherches. Merci beaucoup à tous les deux et on retrouve le docteur Catherine Solano. Docteur Catherine Solano, bonjour.
Bonjour Claire.
Vous rencontrez des couples qui sont au bord de la rupture à cause d'une relation extra-conjugale et d'un coup de cœur en dehors du couple. Quels sont les conseils que vous donnez?
Alors dans ce cas-là, tout d'abord, ce que je dis, c'est que dans une vie de couple qui dure un certain temps, c'est tout à fait normal de croiser une personne extérieure qui nous attire. Ça n'a rien d'abominable ou de terrible, ça fait partie de la vie. Et je dirais même heureusement qu'il n'y a pas une seule personne sur Terre qui est susceptible de nous plaire et avec qui on peut former un couple. Et donc ça, c'est important de se le dire pour ne pas culpabiliser de manière horrible, parce que ça n'avancerait à rien. Et ensuite, il faut savoir que c'est la manière de gérer ces émotions-là qui peut augmenter le problème ou bien qui peut se gérer et s'arranger.
Alors justement, quand on tombe amoureux en dehors de son couple, comment gérer?
Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut rien faire. Il ne faut surtout pas précipiter les choses et prendre une décision hâtive, surtout une décision de rupture. Hein, c'est une chose que je sais depuis au moins 20 ans, parce que quand j'étais étudiante en sexologie, notre professeur nous avait dit, en cas de passion amoureuse, si vous voulez quitter votre partenaire, surtout, votre rôle de thérapeute, quand quelqu'un vient vous voir pour ça, c'est de lui dire, attendez au moins 18 mois avant de prendre une décision.
Alors pourquoi 18 mois?
Et bien, tout simplement parce que quand on est en état de passion amoureuse, à un moment, on retombe quand même sur terre. Et en général, c'est à peu près au bout de 18 mois. Et donc, casser un couple parce qu'on a eu un moment de passion et ça tombe comme un soufflé, on se dit mais finalement c'est complètement débile cette histoire, c'est une vraie catastrophe, ça fait souffrir beaucoup de monde. Au contraire, si effectivement cette relation est quelque chose d'important et peut-être que il va y avoir une rupture et un nouveau couple, on n'est pas à 18 mois près.
Est-ce que ce n'est pas aussi finalement le moment de faire un bilan sur son couple pour comprendre un petit peu pourquoi il tangue?
Oui, bien sûr, parce que quand on a une très forte attirance pour quelqu'un d'autre, c'est pas par hasard. Ça veut dire souvent que dans le couple, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Mais ce n'est pas forcément quelque chose de gravissime. C'est-à-dire que dans un couple, on a toujours des manques. Un couple, c'est aussi un lieu de frustration, pas que de plaisir et de bonheur. Pourquoi? Parce qu'aucun couple n'est parfait et vous n'allez jamais trouver quelqu'un qui va combler exactement tout ce que vous auriez envie de combler en vous. Soit parce que l'autre a ses limites, mais parce que aussi vous, vous avez des manques profonds, et puis, par exemple, dû à votre enfance, et l'autre peut pas combler des choses qui relèvent pas de ses capacités, en fait. Donc, quand on est suffisamment adulte, ces frustrations, on va être capable de les gérer. Quand il arrive un moment où on est un peu déstabilisé, on n'arrive pas à gérer, on va être attiré par quelqu'un d'autre qui lui pourrait peut-être, dans l'imaginaire en tout cas, vous apporter ça. Et donc, ça veut, si on est attiré ailleurs, c'est le moment de faire un bilan de couple et de se poser quelques questions. Alors les questions, c'est qu'est-ce qui me manque dans mon couple ? Est-ce que c'est de la tendresse ou de l'attention ? Des moments de rigolade, des projets, du temps passé ensemble ? Qu'est-ce que je ne demande pas alors que j'en aurais besoin ? Parce qu'il faut pas se dire l'autre m'apporte pas ce dont j'ai besoin, parce que souvent, moi je vois ça tous les jours, on demande pas ce dont on a besoin. Il y a des choses qui me manquent, il faut que j'en prenne conscience et que j'essaye de réclamer. Demandez, vous recevrez, comme on dit. Et donc, il s'agit de faire le bilan de tout ça, pas de dire l'autre a des insuffisances, mais de se dire qu'est-ce que moi je demande et que je devrais pas avoir à demander parce que c'est exagéré, ou qu'est-ce que je demande et dont j'ai besoin, qu'est-ce que je devrais demander plutôt et dont j'ai besoin.
Vous disiez que si nous sommes adultes et que les manques ne sont pas trop profonds, nous pouvons arriver à gérer une attirance vers quelqu'un d'autre. Alors comment faire en pratique ?
Alors tout d'abord, il faut l'accepter, parce que quand on commence par lutter en se disant non, c'est pas bien, en fait ça a tendance à
aggrave le problème.
Se dire je suis attiré vers quelqu'un d'autre, c'est normal, c'est banal, c'est la vie, ça montre que je suis en bonne santé émotionnelle, que je suis vivant intérieurement. Ensuite, il faut chercher, donc comme je disais, à comprendre les manques de couple et agir dessus pour essayer d'améliorer la situation. Et moins on aura de manque, plus cette attirance, ça va être un petit coup de cœur, mais pas qui va passer naturellement. Et puis aussi, il y a une autre chose à faire, c'est ne pas alimenter ses rêveries et ses fantasmes. Parce que quand on pense à quelqu'un, ça passe, on pense à autre chose après. Si on prend cette pensée, qu'on l'alimente et on se dit, je pourrais faire ceci avec lui ou avec elle, etc., on va augmenter cette attirance au lieu de la laisser s'éteindre naturellement.
Et quand dans le fond, on est finalement malheureux en couple ?
Ça arrive aussi, bien sûr. Un couple doit pas forcément être réanimé à tout prix quand ça va pas. Donc, une attirance extérieure, ça peut révéler aussi un mal-être très profond. Donc, une relation qui va très mal. Et donc, il faut se poser la question, est-ce que dans mon couple, je suis vraiment très malheureux et ça va pas du tout ? Auquel cas, cette attirance est peut-être une espèce de bouée de sauvetage ou une porte qui s'ouvre vers quelque chose de mieux et qui va me permettre de sortir d'un couple dysfonctionnel ou destructeur, ou bien est-ce que c'est pas du tout ça ?
Donc finalement, tomber amoureux de quelqu'un d'autre, c'est un événement qui doit amener à évoluer par rapport à nous-mêmes, à son couple, et ça peut être positif.
Oui, dans certains cas, c'est positif, parce que soit le couple se relance, soit on sort d'une situation où on était très malheureux.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano, et comme d'habitude, on retrouve votre chronique sur le blog de l'émission. Vous trouverez toutes les coordonnées sur notre site internet rfi.fr dans la rubrique Priorité Santé. Docteur Catherine Solano, comme tous les jeudis, vous répondez également à une question d'auditeur. On a Daouda qui nous appelle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Daouda, bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour docteur Solano.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, en fait, je ne sais pas si c'est un problème. Je suis avec une fille, une amie. On se voit une à deux fois dans la semaine. Et mais souvent, quand elle vient me voir, elle me dit qu'elle n'a pas envie de faire l'amour. Je me dis, est-ce que ça fait partie des caprices ou bien c'est vraiment naturel qu'une femme ne puisse pas faire l'amour?
Fois qu'elle vous voit, c'est ça. Vous auriez envie qu'elle ait envie à chaque fois qu'elle vous voit, mais c'est pas forcément le cas.
Mais elle vous dit pas toujours qu'elle a pas envie quand même?
Non, pas. Mais déjà, quand nous ne sommes pas ensemble, on se voit une à deux fois dans la semaine. Donc, je pense qu'à chaque rencontre, quand elle vient dormir, elle peut quand même faire l'amour pour moi.
Alors, docteur Solano.
Alors, moi, je trouve que votre question, elle est très intéressante parce que moi, je suis une femme, voyez. Et donc, pour moi, la réponse évidente, c'est que, et je pense que toutes les femmes diraient comme moi, c'est comme votre amie vous aime, elle a envie de faire plein de choses avec vous et pas seulement de vivre sa sexualité. Donc, elle doit avoir envie aussi de papoter, de vous câliner, de sortir, d'aller danser ou de se reposer dans vos bras, etc., de regarder un film avec vous. Et le sexe, pour elle, c'est qu'une seule des choses qu'elle a à partager. Et il y a des hommes qui ont du mal à comprendre ça parce que pour eux, l'amour passe par le sexe. Certains hommes ont du mal à comprendre ça parce que pour eux, l'amour passe forcément par le sexe. Et ils se disent, si elle veut pas de sexe, c'est sans doute qu'elle m'aime pas vraiment. Et donc, ils se disent, c'est bizarre. Or, c'est faux, l'amour et le sexe, c'est différent. Parce que, par exemple, vous, une maman, elle aime ses enfants et c'est pas du tout sexuel. Alors, je vais vous dire pourquoi votre amie vient vous voir si elle veut pas de sexe. Donc elle vient vous voir pour le plaisir de vous voir parce qu'elle vous trouve beau. Elle vient vous voir pour le plaisir de parler avec vous parce qu'elle vous trouve intéressant. Elle vient vous voir pour échanger des idées sur la vie parce qu'elle vous trouve intelligent. Elle vient vous voir pour rire parce qu'elle vous trouve amusant. Et puis elle vient aussi vous voir pour faire l'amour parce qu'elle vous trouve désirable, mais pas seulement.
Et donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est très bien qu'elle ait aussi envie de faire autre chose que simplement de faire l'amour avec lui. Ça veut dire qu'elle l'aime justement.
Oui, et puis je trouve que c'est important que vous lui montriez aussi que vous n'avez pas forcément besoin à chaque fois de faire l'amour, et je vais vous raconter pourquoi. Parce que votre question, elle me fait penser à un de mes patients que j'aime beaucoup, et il me dit, il m'est arrivé quelque chose d'incroyable, c'est qu'il a 60 ans et sa femme lui dit, il y a quelques mois, donc ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés, elle lui dit, tu sais, moi je sais que tu ne m'as jamais aimé et que tu m'as épousé uniquement pour avoir une partenaire sexuelle toujours disponible. Parce que chaque fois qu'on se voyait, au début, une à deux fois par semaine, bah, dès qu'on se voyait, tu voulais faire l'amour. Donc j'ai tout de suite compris que tu m'aimais pas et que ce que tu voulais, c'était du sexe. Et cet homme, il me dit, je suis tombée par terre tellement j'étais surpris. Et il a dit à sa femme, mais pas du tout, j'étais fou amoureux de toi et d'ailleurs je t'aime toujours, tu sais. Et en fait, sa femme pensait depuis 30 ans qu'elle était mariée avec un homme qui ne l'aimait pas. Elle disait oui pour lui faire plaisir parce qu'elle, elle l'aimait. Et donc, il me dit, depuis dans notre couple, ça va beaucoup mieux. Je sens vraiment que ma femme m'aime et on s'est beaucoup rapprochés. Donc mon conseil, c'est de montrer à votre ami que vous l'aimez pas seulement pour le sexe, parce que quand une femme se sent aimée, eh ben elle a beaucoup plus envie de faire l'amour aussi.
En tout cas, ce que j'entends dans ce que vous dites, docteur Catherine Solano, c'est important de se parler, parce que c'est dommage d'avoir des incompréhensions qui durent pendant 30 ans comme ça. Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Merci, Daouda, pour votre question, vous voyez, qui, à mon avis, va intéresser beaucoup de monde. Et demain, on parlera du cancer du col de l'utérus et de la vaccination contre le papillomavirus. On attend dès maintenant vos questions au 33 1 84 22 75 75 et les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé.